Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Danseman.
Bonjour Valérie, comment ça va?
Bonjour, ben ça va bien. Nous sommes le lundi 11 mai, le retour non pas à la normale, comme l'a dit le Premier ministre. Il va falloir adapter nos vies. Appelez-nous à partir de 11h pour nous dire comment se passe ce 11 mai, même si rouge ou vert, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est l'ouverture de certains parcs et jardins et de certaines plages. On va en parler à 10h. 10h30 avec le maire d'Argelès-sur-Mer. On va également parler avec vous de masques, comment mettre les masques et puis les différents foyers qui sont en train d'apparaître un petit peu partout, enfin dans certains endroits. Il y a deux endroits où la maladie circule en tout cas encore. Et puis on sera avec Faustine Bollard, Gilles. Rémi m'a envoyé les audiences, c'est pour ça que je dis ça. Absolument, on aura Faustine Bollard.
Et oui, qui démarre aujourd'hui.
Absolument. Ça commence aujourd'hui et ça démarre aujourd'hui puisqu'elle a tourné la semaine dernière les émissions. Elle est retournée en studio, tout comme ses camarades de l'après-midi, Sophie Davant. Et rappelez-moi le nom.
C'est l'amour, comment elle s'appelle?
Voilà, bon, Daphné Burki. On verra ça. Daphné Burki, absolument. Daphné Burki. Allez, les audiences.
Vous avez vu, moi, j'ai mis un masque ce week-end, ouais. Je vous ai dit que vous m'avez manqué, vous n'avez même pas remarqué, je vous ai dit que vous m'avez manqué ce week-end.
Si, mais pourquoi ce week-end plus particulièrement?
Parce que vous m'avez manqué, je ne sais pas.
Bon, voilà. Bah c'est gentil.
Vous avez vu, j'avais mis un masque,
on s'en fout,
bien mis.
C'est jamais elle qui me dit ça, c'est le réalisateur, je balance. Non, mais pourquoi ce week-end plus que d'habitude? Je ne sais pas. Alors, les audiences en tête, TF1, 6 672 000 téléspectateurs, 27,3% de part d'audience pour Koh-Lanta. Alors, c'est 500 000 de moins que la semaine dernière, mais ça marche mieux que l'année dernière, me signale Rémi Pernelet. Candice Renoir, 4 638 000, c'était plutôt pas mal. C'est France 3 qui est arrivé en tête samedi histoire, dis donc, avec le Mais Pont oui. du Diable. C'était une rediffusion, 5 476 000 téléspectateurs. Ouais, c'est un très gros carton.
Bon, faut dire alors que on TF1 a... et France 2, c'était de l'ardif, hein, Valérie. Hein.
Ouais,
pour la
absolument.
Première fois, ils faisaient un samedi du prime en rediffusion, quand même.
Ouais, la chanson secrète, c'était une rediffusion, 3 308 000 téléspectateurs. C'était pas franchement terrible. Ouais. On a Laure en ligne avec nous. Bonjour Laure.
Allô?
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Oui, merci vous.
Bon, très bien. Vous allez retourner travailler, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe de spécial pour vous ce 11 mai?
Moi, je suis en télétravail. Écoles ont réouvert, mais pour l'instant, je suis sur le lycée, donc je suis en télétravail.
D'accord. Bon, donc ça ne change pas grand-chose pour vous aujourd'hui?
Non.
D'accord. Bon, alors, est-ce que vous avez regardé la télé ce week-end? Qu'est-ce que vous avez regardé?
Alors moi, dimanche, j'ai regardé Faites entrer l'accusé sur RMC Story. Et c'était l'affaire Frédéric Audibert. Mmh. Et honnêtement, j'ai trouvé ça intéressant. Au niveau de l'accusé, c'était intéressant de voir son profil. Et puis après, au niveau du montage de l'émission, on connaît un peu la façon de faire. Donc j'aime bien.
Ouais. Et vous ne l'aviez pas vu avant sur France 2?
Non, pas
D'accord.
celle-ci.
Pas celle-ci. Voilà. Bon, écoutez. Donc, c'est toujours, ça fonctionne effectivement toujours très bien,
oui,
de signaler. Merci Laure de nous avoir appelé. On a Valérie, en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors vous, je veux vous poser la question. Ce lundi 11 mai, il y a quelque chose qui change ou pas?
Pour moi, non, parce qu'en fait, je suis dans l'éducation nationale, mais dans les lycées, donc pour l'instant, on n'est pas encore convoqué, donc voilà, ça change pas
grand-chose. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui vont rester soit en télétravail, soit effectivement des enseignants, soit pas mal de gens qui vont rester encore chez eux. Qu'avez-vous regardé, vous, ce week-end, Valérie?
Alors, j'ai regardé sur France 5 Le Petit Maître Corrigé, de Marivaux.
Oui. Ouais. C'était une pièce de théâtre qui était proposée hier par France 5. Ouais. Et vous regardez souvent le théâtre à la télévision?
Oui, j'essaie de regarder le plus souvent. Oui, c'est sympa.
Alors, Est-ce que vous n'avez pas regardé La Traviata? C'était très tard samedi soir. C'était une mise en scène moderne. Non, c'était pas sur France 3, c'était sur France 5. C'était une mise en scène moderne qui était assez déroutante, je dois l'avouer. En tout cas, et donc ça vous a plu hier, cette pièce de théâtre?
Ouais. Oui, c'était sympa. Les acteurs étaient fous d'eux. C'était quelque chose de frais, quoi.
Bon, vous n'avez pas été tenté par Dirty Dancing qui a rassemblé hier 5 365 000?
Non, je le connais tellement que non. Oui, ouais. J'ai été tentée, mais Marie, je le connaissais pas. Enfin, le petit maître corrigé, je ne connaissais pas. Donc, je me suis dit, tu vas aller voir plutôt cette pièce de théâtre. Ça, c'était sympa, quoi. Voilà, puis j'étais
Grand écart, effectivement, entre le théâtre. Rémi Pernelet, à l'instant, me dit ça a rassemblé 331 000 téléspectateurs. Bon, c'est normal, c'est un petit peu plus exigeant. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir appelé. Petit score également pour M6. On peut dire que c'est un flop, voire un gadin, comme dirait notre ami Rémi Pernelet. 1 410 000 téléspectateurs, 5,7% de part d'audience pour le Zone Interdite sur les enfants gitans. Et puis, je le disais, donc 5 365 000 téléspectateurs pour Dirty Dancing, qui était en tête des sujets discutés sur Twitter. Deuxième position pour France 3 avec la série Commissaire Dupin.
Un jour, je vous soulèverai dans une chorégraphie telle Dancing.
Voilà. Je ne vous propose pas l'inverse. 4 289 000 téléspectateurs pour France 3. Et puis France 2, quasi ex aequo avec Mission Impossible. Voilà. Et puis, c'est tout. Il y a beaucoup d'audience. Mais c'était les principales de ce week-end. 582 000 téléspectateurs tout de même pour RMC avec la rediffusion de Faites entrer l'accusé qui a regardé l'or. Allez, on va passer au zapping, votre moment de gloire.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Valérie, il est minuit 1 et c'est l'heure du déconfinement. Du coup, certains se sont rassemblés sur le port de Marseille pour faire une fête.
Sur le vieux port de Marseille, un petit groupe de jeunes a décidé de fêter le déconfinement. Au programme, musique, bonne humeur et soulagement.
On savoure un peu notre liberté sans attestation. On boit un verre, modérément bien sûr, et on se balade un petit peu. On a attendu minuit pour sortir et voilà, on va s'amuser, se retrouver, raconter nos confinements, nos anecdotes, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait.
C'était la fiesta, ça.
Je pense qu'il y a un vrai problème de com' de la part du gouvernement. On en reparlera à 11h. Continuez, pardon.
Déconfiner et masque obligatoire dans les transports, ça devient donc une denrée rare. À l'Assemblée nationale, Éric Ciotti, jeudi, a demandé des comptes sur des masques qui ont été brûlés par le gouvernement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui a répondu.
Monsieur Ciotti, il faut arrêter de dire vous avez détruit des masques. Oui, on a détruit des masques, monsieur Ciotti. Vous savez quels masques on a détruit? Des masques moisis, inutilisables, dont les critères de filtration et de respirabilité font que vous ne les donneriez même pas votre lapin nain. C'est-à-dire, c'est pas possible. Ce sont des masques totalement hors d'usage que nous avons été amenés à détruire. Ce sont des masques qui dataient du début des années 2000, sans date de péremption.
Autre polémique. Comment?
Très en forme, le ministre de la Santé.
Autre polémique, alors que le débat faisait rage sur l'utilité du port du masque, on s'est aperçu que les pharmaciens, en fait, avaient le droit de vendre des masques depuis le début. Un foutage de gueule raconté par France 2.
Un document du ministère de la Santé, daté de jeudi dernier, apporte une précision qui change la donne. Ne sont pas concernés par l'interdiction de vente du 23 mars les stocks de masques importés depuis cette date. En clair, contrairement à ce que pensaient les pharmaciens, depuis fin mars, ils étaient libres d'importer des masques pour les vendre. Le Conseil d'État l'a confirmé avant-hier.
On passe à une nouvelle étape et Quotidien, jeudi, a voulu rembobiner cette séquence de 3 mois. Allez, retour dans le futur, nous sommes en février et à l'époque, on n'a peur de rien.
Au début de l'année, on était préparés, on était les plus forts, à tel point que quand l'épidémie est arrivée en Italie en février, on fanfaronnait, y compris dans les médias.
La France ne s'en sort pas si mal, 1784 cas contre plus de 10 000 en Italie.
On leur donnait même des leçons.
L'attitude française de vouloir limiter cette diffusion est sûrement la meilleure et c'est peut-être cette étape-là que nos amis italiens n'ont pas tout à fait réussi. Même...
Et sur notre plateau le 10 mars dernier, Michel Simès pensait lui aussi que la France serait épargnée.
Mais on n'est pas en Italie, Yann. L'Italie a un service de santé qui est probablement beaucoup moins performant que le nôtre. On s'y est pris à temps.
Il y a moins de risques, en tout cas, que ça arrive ici.
Il y a moins de risques, on est mieux préparé. Et puis, je ne crois pas qu'un jour, on va mettre la France en quarantaine, toute la France en quarantaine.
C'est dur hein, d'écouter ça. Déconfinement, c'est aussi le retour demain en classe pour Martine Aubry, la maire de Lille. Elle a prévenu dans C'est à vous que 53% des familles ne veulent pas de ce retour à l'école.
À partir du moment où le gouvernement a fixé le volontariat, c'est vrai que ces catégories qui ont peut-être peur, plus peur que les autres, qui ne travaillent pas obligatoirement à deux parents, bah, se disent on va garder nos enfants. C'est une lourde responsabilité qu'on a fait supporter aux parents de faire le choix entre la continuité scolaire essentielle et la santé de leurs enfants.
Je vous propose le coronavirus pour continuer. C'est la youtubeuse Kim Glo qui est quand même suivie par plus d'un million de personnes sur son site et qui a donné sa théorie du Covid-19, théorie du complot. Vous allez voir, c'est affligeant et dire qu'elle est suivie.
Aujourd'hui, tu peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire. Tout le monde, toute la planète elle crève d'un coup. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc qu'on étudie à l'école, là, le... comment ça s'appelle ? Les camps de concentration, ben voilà. En gros, là, c'est une guerre pour les plus faibles. C'est horrible, mais c'est vrai. Non, mais j'ai un moment de lucidité, là, quand j'y pense, mais c'est une évidence, en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État.
Ah ben voilà, c'est Macron qui a voulu alléger les caisses de l'État.
Ouais. Oui, je ne sais pas si c'est très utile. Non, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et je me suis dit que c'était complètement idiot de le partager, de le faire entendre, qu'on laisse les imbéciles là où ils sont et ça ne sert à rien de leur faire de la pub. Quoi. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme elle.
Et oui, à part qu'elle est suivie par un million de personnes et c'est ça qu'il faut dénoncer et peut-être se désabonner. Ouais. Pour finir, il nous a quitté ce week-end un génie du rock et du piano, évidemment Little Richard. Alors évidemment, tutti frutti, Valérie.
Ça
quelque
donne,
chose hein, quand même.
Ça donne la pêche, hein.
Ouais,
absolument, évidemment, hein, au moment où elle est sortie en 1950. Allez, on va passer à notre invité du jour. Merci, Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Faustine Bollaert. Bonjour, Faustine.
Bonjour, Valérie. Bonjour, Gilles. Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Très bien, en pleine forme. J'ai eu la chance de pas être du tout touchée par le virus. J'ai eu pas non plus de proches dans le premier cercle. Donc, je suis comme tout le monde. Je commence à trépigner, à avoir envie de retrouver un petit peu notre vie tout en étant évidemment très raisonnable dans cette période un peu particulière.
Et voilà, vous êtes certainement l'une des premières à être retournée en studio la semaine dernière. Vous avez recommencé à enregistrer, à tourner les émissions de Ça commence aujourd'hui. Alors, il faut préciser que pendant le confinement, vous étiez également en contact avec vos téléspectateurs puisque vous étiez sur Instagram, c'est ça ?
Exactement, une version
Ça commence à la maison
exactement,
à domicile.
Exactement, une petite pastille un peu sympa qu'on pouvait retrouver et sur Instagram et sur la plateforme de France Télévisions, France.tv, avec une formule un peu enrichie. Ça nous a permis de pas couper le contact.
Mais ça, voilà. C'est
alors
fini
racontez-nous,
à partir d'aujourd'hui.
Bah oui,
comment
c'est fini.
Ça, c'est fini à vous partir allez pas d'aujourd'hui.
C'est fini. On va peut-être commencer... Enfin, en fait, on a réussi à installer aussi quelque chose de encore plus dans la proximité. On a pu avoir des contacts directs avec les gens chez eux. Donc moi, j'avoue que je suis tombée un peu sous le charme de cette petite formule. Donc on est en train de réfléchir de quelle manière on pourrait la perdurer. Peut-être pas tous les jours, mais garder un petit peu ce rendez-vous qu'on a réussi à installer.
Oui, ben peut-être qu'il y a des choses qui vont changer justement. Alors vous allez nous raconter un petit peu comment sont passés vos tournages, mais peut-être que la télévision va innover, inventer un petit peu, à l'instar de Cyril Lignac, des nouveaux formats, des nouvelles formules. Comment ça s'est passé cet enregistrement la semaine dernière, ces tournages ?
Les choses se sont bien passées. C'était un peu particulier parce que je suis arrivée dans un studio qui avait été un petit peu figé dans le temps puisque on avait quitté en fait le studio le jour où le président avait annoncé notamment la fermeture des écoles. Donc on avait tous été. J'ai retrouvé mes fiches de l'émission d'avant, la dernière émission que j'ai tournée d'avant le confinement. Il n'y avait pas eu de ménage, il n'y avait rien eu du tout. C'était un peu étrange comme sensation. Ouais. Et puis surtout dans un plateau où d'habitude on est plus de 50, 60. Là, on s'est retrouvé à moins de 15, puisque forcément, on doit répondre à des normes sanitaires, et c'est tout à fait normal, extrêmement strictes, avec évidemment un sens de circulation sur le plateau, tout le monde masqué, des blouses, des visières pour certains. Donc, il y a une ambiance extrêmement irréelle, un calme qui est assez étrange sur un plateau télé, où en général, il y a beaucoup d'émulation, il y a le public, il y a les chauffeurs de salle, ça grouille de petites mains partout. Là, il y avait vraiment un calme qui était impressionnant. Tout était réduit au strict minimum. Donc, je vous dis pas que c'était pas un peu anxiogène, mais finalement, on a vite retrouvé nos marques dans une configuration qui est un peu différente, puisque pour le coup, pareil, nous, on est une émission où tout est basé sur des témoignages d'invités. Les invités, là, ils étaient chez eux, puisqu'on les a interviewés depuis chez eux via Skype. Alors, on a fait en sorte d'avoir une très bonne connexion. On a tout habillé ça de manière à ne pas diminuer la qualité de l'émission. Néanmoins, c'est un exercice vraiment particulier. C'est pas la même chose d'accoucher les gens en face et de les accoucher alors qu'ils sont chez eux. Il y a un travail vraiment... vraiment d'animation qui est extrêmement différent. J'ai pas de repères dans les langages corporels, les regards sont beaucoup plus loin, on se fatigue plus à parler à un écran, donc très vite, au bout d'un quart d'heure, on commence à être un peu usé finalement d'un plan fixe. Donc tout est un petit peu à réinventer, donc on était plus confortable au bout de la 8e émission que la première, mais voilà, c'est pour l'instant, on va c'est dire qu'on tâtonne. Voilà, il y a un coup à prendre, même si j'espère malgré tout que ça va pas s'installer dans le temps et qu'on va pouvoir vite recevoir à nouveau des invités sur le plateau.
Vous avez une idée à peu près de quand ou ça reste encore assez indécis?
Alors là déjà pendant 15 jours à l'antenne je parle, donc nous on l'a déjà tourné 8 émissions, on va proposer donc des émissions avec des gens vraiment que chez eux. Je crois que la semaine prochaine on va tenter d'avoir un ou deux invités par émission, mais le problème c'est qu'il faut remplir un de ces nombres de contraintes, c'est-à-dire l'idéal ce serait de trouver des personnes qui témoignent en Île-de-France, qui ne travaillent pas, il y a tout d'un coup il y a une espèce de une liste de choses extrêmement compliquées pour trouver la bonne personne, puisqu'on n'a pas envie de prendre des témoignages qui sont moins appropriés juste parce que ce sont des gens qui habitent à côté du studio quoi. Donc voilà, on va essayer la semaine prochaine, on s'est dit qu'on allait essayer de retrouver au moins un témoignage et après de fur et à mesure. Mais je crois que, par exemple, j'ai appris que je crois que Télématin revient fin mai et les chroniqueurs seront encore en Skype. Donc je pense malgré tout qu'on est quand même encore parti pour ce système doit encore rester en place un bon bout de temps, je crois.
Mais vous, ça vous apporte quoi d'être en studio? Parce que finalement, vous pourriez être depuis chez vous, puisque en studio, il n'y a que la caméra et 2-3 techniciens. Il n'y a pas de public, j'imagine.
Non, il y a évidemment pas de public, il y a très peu de caméramans. Enfin, sur le plateau hier, on était un. Alors déjà, j'ai quand même la chance d'être avec un expert. Je suis pas toute seule. Je suis avec un expert ou deux experts qui peuvent accompagner au mieux. Hier, on a fait une émission notamment sur des gens qui avaient traversé des deuils pendant ce Covid-19 et des deuils impossibles puisqu'ils n'avaient pas vu le corps des personnes, des défunts, tout ça. Donc là, c'est utile pour moi d'être accompagnée des experts. Et puis, je pense quand même que il y a quand même c'est plus agréable pour ceux qui vont nous regarder de retrouver des repères, notamment ce plateau qui est quand même il y a quelque chose quand même d'un peu rassurant. On va dire que il y a un pas entre le confinement qui était très strict et les retrouvailles peut-être d'une liberté et de notre plateau habituel. Je trouve qu'il y a une espèce d'entre-deux en me voyant sur ce plateau. Et puis voilà, sur le plateau, on a aussi un beau décor, une belle lumière. Donc à l'image, tout simplement, c'est quand même très quali, quoi, du coup. Beaucoup plus quali que si j'étais chez moi avec mon spot toute seule, quoi.
Et vous avez été maquillée ou pas, alors, ou vous êtes maquillée vous-même?
Un peu des deux, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir j'ai eu une personne d'habitude en effet. Alors c'est pas possible. Dit comme ça, c'est horrible parce que d'habitude j'ai tellement de façades. Non mais c'est vrai que d'habitude on a maquillage, coiffure, stylisme. Là j'avais une personne qui faisait les trois, donc on a un peu. Voilà. Mais en même temps, vous savez, il n'y avait pas de script. Donc il n'y avait pas d'assistant réalisateur, donc les réalisateurs se sont retrouvés aussi à aller bouger les éléments du décor. Enfin, chacun devait un peu se réinventer et en fait incarner chacun deux ou trois corps de métier, quoi.
Est-ce que les thèmes vont justement être en rapport avec ce qu'on a vécu avec le Covid-19? Vous avez évoqué cette émission autour du deuil impossible. Est-ce que vous allez consacrer ou est-ce que vous avez, puisque vous les avez enregistrés, choisi de traiter de la façon dont les Français ont vécu cette période?
Pendant 15 jours, oui. Pendant 15 jours, on va vraiment être focalisé sur la façon dont les gens l'ont perdu, vécu, pardon, parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué, enfin j'ai remarqué comme tout le monde, l'actualité est tellement puissante et forte que on nous a beaucoup parlé, on nous a un peu offert un catalogue permanent de toutes les situations dans lesquelles les Français pouvaient se trouver, ceux qui faisaient des rencontres entre voisins, mais on n'a pas eu le temps d'écouter vraiment, de se poser sur des témoignages. Et je pense qu'il est vraiment venu le temps maintenant, dans cette première phase aussi de déconfinement, de s'écouter posément, tranquillement, et de prendre le temps d'écouter de ceux qui ont vécu des traumatismes ou des bonheurs aussi, parce qu'il n'y a pas que ce deuil.
Oui, on
a
aussi, lundi, c'est Valérie, j'ai trouvé l'amour durant le confinement. Je me demande comment on peut trouver de l'amour durant le confinement.
Je peux vous dire que, notamment sur les réseaux sociaux, les gens ont pris beaucoup plus le temps d'aller sur des sites de rencontres. Puis il y a des gens qui se sont donné rendez-vous dans des supermarchés au rayon pamplemousse. Et qui ont fait connaissance en faisant semblant de faire les courses comme un vieux, comme des couples. En fait, ils ne s'étaient jamais vus de leur vie et qui se sont retrouvés à choisir ce qu'ils allaient soi-disant manger le soir et à se dire au revoir sur le parking autour d'un caddie en faisant semblant d'être ensemble depuis 10 ans. Donc si, je peux vous dire qu'il y a des très très jolies histoires, et je peux vous dire même que dès lundi, moi je suis au taquet parce qu'il y a plein de gens qui m'ont raconté des histoires, et il y a plein de gens qui vont se rencontrer cette semaine pour la première fois, qui sont tombés amoureux via Skype. Je pense à une téléspectatrice qui a 75 ans, qui est tombée folle amoureuse d'un homme sur un site internet de rencontre, et depuis tout le confinement, ils dorment ensemble, ils regardent la télé ensemble, ils commandent les jeux télé ensemble, mais par Skype interposé. Donc, ils se rencontrent pour la première fois mardi, je peux vous dire, mardi.
Vous êtes au taquet, là. Vous allez les suivre, j'imagine, avec beaucoup d'intérêt.
J'adorerais être une petite souris.
Voilà. Chez vous, ça s'est passé comment, le confinement ? Votre mari, ça n'a pas changé grand-chose pour lui, l'écrivain Maxime Chattam. Oui, il est enfermé dans son bureau.
Alors, à part que je crois qu'on s'est gentiment dit qu'on se voyait peut-être un peu trop en ce moment, mais non, lui, par contre, je crois qu'il est sorti une fois en 8 semaines, une fois où j'ai pas, c'est moi qui étais tellement contente d'aller faire les courses que je pouvais me battre pour le faire. Donc non, lui, ça a vraiment rien changé pour lui, à part que la présence permanente des enfants. Plus, on a été la première ville une des premières villes confinées, parce qu'on habite dans l'Oise, et donc moi, mes enfants sont partis tourner à l'école depuis le 14 février.
J'imagine que vous allez consacrer une émission à ça, non?
Je ne supporte plus
mes enfants.
Non, parce qu'en même temps, j'ai vécu des moments privilégiés. Mais en effet, moi, je trouve que ça commence à faire.
Mettez à l'école aujourd'hui? Aujourd'hui, ils vont aller à l'école.
Mon école réouvre en effet demain. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu encore tous les détails, mais oui, moi, je vais les remettre à l'école. Je pense que, en fait, j'ai la chance en plus d'habiter. Je suis pas à Paris, je suis dans une petite école rurale où ils sont 12 par classe. Donc, je pense que là, comme il y en a plein qui vont pas les mettre, je pense qu'ils vont être 6. J'ai besoin de retrouver un rythme, mais mes enfants ont un peu fait le tour. Ça fait 2 mois et demi qu'ils sont à la maison. Même m'avoir comme maîtresse d'école, je pense que c'est eux qui vont me tuer d'abord.
Écoutez, merci Faustine Bollard d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure, 13h55, France 2. Ça commence aujourd'hui, donc dans une formule un petit peu particulière, Covid oblige, mais en tout cas heureuse de vous retrouver avec des témoignages, qui sont, vous nous l'avez
fort
dit, assez forts, absolument. Merci,
merci
à vous, Faustine. Prenez soin de vous.
Merci.
On se retrouve nous dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On va parler avec le docteur Hamon dans un instant de la façon de porter les masques et puis de la façon dont la maladie circule encore aujourd'hui. Et puis on va parler de l'ouverture des plages avec le maire d'Argelès-sur-Mer. Mais tous les jours, vous le savez, à 10h30, on a envie, nous à Sud Radio, d'être positif et de porter un coup d'éclairage sur une initiative solidaire. Aujourd'hui, c'est Gérard Deray, bonjour, qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes membre du comité exécutif de Sauveteurs sans frontières. Alors, vous allez parler dans un instant de votre initiative. Dites-nous un petit peu ce que c'est que Sauveteurs sans frontières. Quand on pense à sauveteurs, on pense à sauveteurs en mer. Ce n'est pas exactement cela.
Non, alors Sauveteurs sans frontières, c'est une organisation internationale qui a les secouristes dans le monde entier et qui intervient le plus vite possible pour sauver des vies quand il y a soit une catastrophe naturelle, soit dans une zone de guerre, soit même simplement des fois des accidents domestiques. Hein. Donc notre motto, c'est d'intervenir le plus rapidement possible, d'être le plus rapidement possible sur les lieux avec des gens qui sont formés et équipés. Et on a à peu près 1800 secouristes dans le monde entier.
D'accord, donc beaucoup, beaucoup effectivement à l'étranger, au Sri Lanka, en Birmanie, Haïti, Thaïlande, pour ne citer que ces pays-là. Et là, c'est en France que vous avez décidé de vous mobiliser. Un don pour nos héros, donc on peut le retrouver sur le site undonpournosheros.com et vous avez mis en place une plateforme qui permet de centraliser, de distribuer des dons à destination des personnels soignants.
Ben, en fait, si vous voulez, l'initiative, elle revient au comité exécutif, bien sûr, de Sauveteurs sans frontières. Quand il y a à peu près 2 mois, tout ça a commencé, on s'est dit qu'il était important d'intervenir en France aujourd'hui parce que c'est ici qu'on avait besoin de nous. Quelque part, on s'est dit que pour sauver des vies, il fallait aider les gens qui sauvent des vies. Donc, on a fait quelque chose de très simple. On a levé un peu de fonds à travers une plateforme qui nous a été... gracieusement mis à disposition par Charity et on a excusez-moi, vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien.
Oui, pardonnez-moi.
Allez-y, Gérard Doré.
Avec ces fonds-là, on a décidé de faire livrer à domicile le personnel soignant avec de l'alimentation la plus fraîche possible, c'est-à-dire principalement des fruits et légumes. On s'est dit que ces gens-là avaient besoin d'un geste solidaire et d'un geste qui les change un peu leur quotidien. Voilà.
Et donc, vous avez décidé, effectivement, vous avez dit que, bah, en France, on avait besoin d'être aidé, les soignants en particulier. Comment ça s'est mis en place? Alors, d'où vient l'approvisionnement? Comment ça s'est organisé?
Alors, on a d'abord recherché un partenaire qui pouvait nous mettre à disposition des fruits les plus frais possibles. Donc, on a fait venir près du domicile d'un des bénévoles. On a fait quasiment venir Rungis près de chez lui, puisque ce partenaire nous achète tous les matins, à 5h du matin, des fruits et des légumes, et nous les fait parvenir. À 8h ensuite, on prépare tout ça, et vers 11h30, midi, on commence à distribuer des aides-soignantes, des infirmières, des brancardiers, à domicile directement, des fruits et légumes du frais.
Et il faut dire que ces paniers, alors c'est le personnel soignant, on peut le dire, des EHPAD, des cliniques, cliniques psychiatriques, hôpitaux, c'est assez vaste quand vous dites soignant. Hein.
Absolument. En fait, si vous voulez, au départ, on a livré du personnel dans des EHPAD et dans des cliniques, effectivement, et ensuite, le bouche à oreille a fait son chemin et on a été contacté individuellement par des infirmières, des aides-soignantes et l'ensemble des professionnels de santé pour les livrer chez eux directement. Donc chaque panier fait 13 ou 14 kilos de fruits et légumes et ça change leur vie parce que on s'est dit que ces gens-là en avaient peut-être assez de rentrer le soir très très tard après des journées éreintantes, de se faire un bol de pâtes ou un bol de riz et d'avoir quelque chose d'un peu plus sain et d'un peu plus agréable. Voilà. Pour les gâter un petit peu, pour leur donner des sourires, quoi.
Et la réaction, je même pas à vous poser la question, j'imagine que ça a été accueilli de façon plus que positive.
Alors c'est très étonnant. D'abord, effectivement, le bouche-à-oreille a fait un peu comme une traînée de poudre. Et, et en plus, si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est que avec juste, comme je vous le disais, un panier de... Alors c'est un panier conséquent, mais un panier de fruits et légumes, on redonne le sourire à des gens qui sont éreintés de... 8, 10, 12 heures de 12 heures de fatigue, quoi. Et je pense que ce sont des gens qui n'ont pas trop l'habitude d'être chouchoutés. Et donc, on s'est dit que c'était l'heure de le faire.
Et puis, il y a La Roche-Posay qui offre également des crèmes pour les mains. J'ai vu sur les photos sur votre site, avec ces très beaux paniers repas, il y a deux types de crèmes pour justement qui se chouchoutent et en particulier qui prennent soin de leurs mains puisqu'ils sont agressés par les gestes quotidiens, lavage des mains et gel hydroalcoolique. Donc ça aussi, c'est une très bonne initiative.
Absolument. En fait, c'est le groupe L'Oréal qui nous a offert des crèmes pour les mains et pour le visage parce qu'à force de masques de qualité moyenne au départ, en tout cas, et de laver les mains avec du gel hydroalcoolique, ils avaient vraiment des besoins De crème, tout bêtement. Hein. Donc,
alors là, vous lancez un appel, un don pour nos héros, c'est-à-dire vous faites un appel au don.
Ben, si vous voulez, l'opération ne s'est pas arrêtée aujourd'hui, le 11 mai, ouais. Après le début du déconfinement, ouais. On va dire. On continue, nous, à livrer. On va livrer encore jusqu'à la fin du mois, je pense. On a besoin d'un peu de fonds. Si vous avez effectivement quelques donateurs qui ont envie de participer à cette jolie opération et à redonner le sourire à un personnel soignant parfois éreinté, ben, qu'il fasse des petits dons, ou des gros dons d'ailleurs, en ligne directement sur une plateforme Un don pour nos héros. Vous tapez ça en un seul mot, undonpournoshéros.com sur Internet, et tous les dons sont doublés, parce qu'on a aujourd'hui une entreprise qui a joué le jeu et qui nous a doublé l'ensemble des dons. C'est-à-dire que si vous avez un donateur qui donne 20 euros, nous on reçoit 40 euros, et avec ces 40 euros, on fait un panier. Voilà, donc 20 euros de dons, c'est une infirmière ou un aide-soignant ou une aide-soignante à qui on redonne la pêche, voilà.
Bah écoutez, c'est une formidable initiative. J'encourage tout le monde à aller sur votre site Un Don. Donc, un, c'est comme le chiffre 1, donpournoshéros.com. De toute façon, en tapant, on tombe assez vite dessus. Puis regardez votre site également, Sauveteurs sans frontières, puisque ce que vous faites est assez formidable, puisque vous aidez encore une fois un petit peu partout dans le monde, sur les terrains de guerre, sur les terrains difficiles à aider les soignants justement à se former et c'est une très très belle association. Merci beaucoup Gérard Doré d'avoir été avec nous ce matin. Un don pour nos héros, donc si vous voulez aider le personnel soignant qui en a encore besoin, même si on dit qu'aujourd'hui 11 mai c'est le déconfinement, il y a encore beaucoup de boulot dans les hôpitaux. Merci. Absolument. À vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir, et nous on va continuer. À bientôt.
Et ben, continuez, à bientôt. Au revoir. Antoine Parra est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire d'Argelès-sur-Mer. Alors, on a beaucoup entendu parler des coiffeurs et des plages. Ça semble être deux des préoccupations très importantes des Français. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, à Argelès-sur-Mer, pour pouvoir rouvrir la plage? On a vu qu'il allait peut-être falloir réserver sa place sur la plage. Comment faire respecter les distances sanitaires? C'est un casse-tête pour vous qui êtes maire?
Oui, alors c'est un casse-tête, effectivement, parce que nous sommes devant une première absolue. Imaginez Argelès-sur-Mer en été, avec le beau temps, la chaleur, la mer qui est omniprésente, et ne pas pouvoir accéder à la plage, ça serait purement inimaginable. Alors nous en sommes, comme tous les maires des communes littorales, j'ai fait ma demande au préfet pour pouvoir, dès aujourd'hui, enfin dès que possible, ouvrir la plage, mais de manière dynamique, c'est-à-dire sans encore pouvoir se poser sur le sable et passer du bon temps au soleil, mais juste pratiquer la promenade, peut-être la pêche, marcher au bord de l'eau, etc., des choses comme ça, c'est dans une première étape. Mais ensuite se pose évidemment le problème qui vient, le problème majeur, c'est le problème de la saison, la pleine saison, juillet et août, où il y a beaucoup de fréquentation. Et là, tout le monde comprendra que la question qui se pose, c'est la question de la promiscuité sur le sable, parce que nos plages sont très prisées, et il faut arriver absolument à ce que nos vacanciers viennent à Argelès-sur-Mer dans des conditions sanitaires optimales, et qu'ils viennent passer leurs vacances sans aucun risque, évidemment, et en gardant l'insouciance nécessaire qu'il faut pour les vacances. Donc, de ce fait, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour maîtriser la fréquentation de la plage. Alors, s'il n'y en avait pas besoin parce que la fréquentation serait moindre à cause... Là, donc évidemment, le principe absolu, c'est la liberté d'accès à la plage, c'est celui que nous favorisons le plus, c'est évident. Mais s'il y avait un pic de fréquentation qui ferait qu'on ne serait pas en sécurité, à ce moment-là, nous avons la possibilité de mettre en place une application qui nous a été proposée par une start-up locale qui est spécialisée dans le tourisme et qui prévoit donc de réserver en quelque sorte sa place à la plage s'il n'y avait pas moyen de faire autrement. En réservant sa place à la plage, il y aurait l'avantage pour nous, on serait sûr d'avoir de pouvoir s'allonger sur sa serviette avec une distanciation physique optimale, et ça éviterait qu'on interdise physiquement aux gens qui se sont déplacés pour venir à la plage et de leur dire non, vous ne pouvez pas accéder parce qu'il y a trop de monde. Donc c'est un peu comme des personnes qui veulent réserver un billet d'avion, un billet de train, un musée ou le théâtre, hein. C'est comme ça que ça se passerait si effectivement il fallait écréter les pics d'affluence. aussi.
Et après, pardon, l'organisation sur la plage, vous l'imaginez comment? C'est-à-dire cette distance de combien? De 2 mètres? Vous avez prévu un système?
On a prévu un système assez large, parce que donc, nous avons répertorié la capacité possible de chaque plage en prenant beaucoup de marge. Donc nous savons combien de personnes peuvent être installées sur la plage, à environ 6 mètres carrés par personne, ce qui est une distanciation très, 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 très confortable. Et ensuite, nous avons sur place des maîtres nageurs qui surveillent les baignades, qui seront là aussi, parce qu'ils auraient la possibilité d'exercer la police municipale sur place. Ils veilleraient de manière très pédagogique, bien sûr, ils veilleraient de manière très pédagogique à ce que les distanciations soient respectées. De cette manière-là, ensuite, effectivement, il y a des agents de la collectivité qui pourraient aussi aller sur les plages pour veiller en sorte, faire en sorte que tout se passe bien. Mais encore une fois, le principe, si on peut, le principe, c'est la liberté. Ce système de réservation ne se mettrait en place ou ne se mettra en place que s'il y a un pic d'affluence afin de décréter ce pic d'affluence.
Oui, aujourd'hui, le préfet ne vous a toujours pas répondu, puisque concrètement, le ministre de l'Intérieur a décrété qu'à partir d'aujourd'hui, l'ouverture des plages et des lacs serait possible au cas par cas. Pas de réponse pour l'instant?
Non, pour l'instant, non. Ma demande, je l'ai faite parvenir vendredi, avant même que le ministre ne se prononce. Mais donc, je dois voir le préfet, j'ai un rendez-vous avec le préfet demain. Seront étudiés, le cas sera étudié étape par étape. Les premières étapes, là, au mois de mai-juin, la fréquentation n'est quand même pas maximale. Et donc, certainement qu'on aura des possibilités d'aller à la plage pour faire certaines pratiques. Mais ensuite, la question qui se pose vraiment, c'est celle de juillet-août, où il faut gérer quand même une affluence importante. Et là, on a un peu plus de temps pour étudier. Et ce sera vraiment du coup humain. Hein. Quand on parle du binôme préfet-maire, cette fois-ci, ce sera vraiment en action, parce que ce sera pratiquement plage par plage qu'on étudiera les procédés.
Est-ce que les habitants d'Argelès-sur-Mer ont respecté le confinement? Il y a pas la plage est restée vraiment complètement fermée?
Oui, la plage est fermée. Vous savez, les Catalans, ils sont très dociles et très accueillants et ils sont obéissants. Donc oui, le confinement a été bien respecté et chacun a bien compris qu'on devait faire des efforts, même si tout ça n'était pas toujours compris, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas aller à la plage alors que c'est un endroit qui est assez peu fréquenté au printemps, parce que l'eau n'est pas encore assez chaude. Donc on n'a peut-être pas toujours compris pourquoi l'interdiction de la plage, en tous les cas, ça a été respecté.
Bon, très bien. Bah, écoutez, on espère que vous pourrez rouvrir. Hein. Vous l'avez dit à de nombreuses reprises, il faut... effectivement, pour vous, c'est une saison, l'été, on le sait, qui est très importante. Ça va dépendre aussi de la circulation du virus. Hein. Je pense que c'est aussi ça que vous observez.
Ça dépendra surtout. Évidemment, la circulation du virus, mais chez nous, n'a pas trop circulé. On a été très largement épargnés. Mais ça dépendra surtout de la distance des 100 km. Si les 100 km ne sont pas, c'est un verrou, c'est un véritable verrou, ces 100 km pour nous. Si il n'est pas levé, il y aura pratiquement pas de saison, parce que quand on parle d'un rayon de 100 km, nous au sud, nous avons la frontière espagnole qui est fermée, nous avons à l'est la mer Méditerranée, donc c'est pas propice pour arriver en vacances, à l'ouest nous avons la chaîne des Pyrénées, on n'a que le nord et à 100 km on a Narbonne, donc c'est pas un bassin suffisant pour faire notre tourisme en été. Quoi. Donc on espère vraiment que ce verrou sera levé, le verrou des 100 km, et ensuite la possibilité à nouveau de faire de la location saisonnière, ce qui est toujours interdit. Hein. Et nous avons 60 000 places de camping à réserver. Je sais que les Français attendent, parce que c'est un mode de vacances qui est très prisé, parce que justement on a beaucoup d'espace, beaucoup de confort. Donc si ces deux verrous sont levés, on pourra avoir une saison qui sera à peu près rattrapée, pas totalement, mais un petit peu amortie. Quoi. Mais ces deux verrous doivent sauter d'abord.
Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite vraiment bon courage pour la suite. J'espère que le préfet entendra votre demande. Il fait quel temps aujourd'hui à Argelès?
Il fait mauvais sur le nord. Tout de suite est concerné. Non. Ouais. Mais on a un peu d'eau, c'est pas mal.
Oui, oui, on n'annonce pas une super météo, effectivement, pour cette semaine. Donc, voilà, il y a un petit répit encore aujourd'hui.
La météo nous accompagne pour la reprise de la plage, oui, c'est ça.
Et ben voilà. Antoine Parra, merci beaucoup, maire d'Argelès-sur-Mer. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on prendra de vos nouvelles, évidemment, dans les jours et les semaines qui viennent. Région qui nous est évidemment chère à Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec le docteur Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, Jean-Paul Hamon est avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Déjà, première question, comment allez-vous docteur?
Mais ça va très bien, je vous remercie.
Bon, très bien. Plusieurs choses à voir avec vous. On va peut-être commencer avec les masques. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dans la rue, évidemment, qui portent des masques. Mais moi, ce week-end, j'ai été frappée de voir la manière dont les gens mettaient leurs masques. Alors, on réhabilite d'une certaine manière Sibeth Ndiaye qui avait dit « Moi, je ne sais pas comment mettre un masque ». Et on se rend compte que beaucoup de Français ne savent pas, effectivement, porter un masque. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils ?
Bah écoutez, c'est quand même relativement simple. Hein. Il faut que le masque couvre le nez et qu'il couvre le menton. Et comme ça, on est tranquille. Alors c'est vrai que quand on parle avec un masque, il a plutôt tendance à descendre. Donc il faut que l'élastique ou la lanière soit un petit peu haut sur l'arrière de la tête, de façon à éviter la descente du masque.
Ouais. Et donc, parce que j'ai vu beaucoup de gens, moi, qui portaient le masque sous le nez,
Sous le nez, c'est pas bon. Et en même temps, il faut dire, bon, vous avez entendu des gens qui disaient que pour porter un masque, quand il fallait pas toucher son masque, sinon c'était pas bon. Alors effectivement, quand vous touchez votre masque, vous risquez de mettre du virus sur vos mains. Donc il faut simplement se laver les mains au gel hydroalcoolique à chaque fois que vous avez touché votre masque ou vous l'avez remonté. C'est ultra simple.
Ouais.
Et si vous le portez pas très longtemps, vous êtes pas obligé d'en changer quand vous rentrez chez vous. Hein. Vous pouvez le suspendre à une poignée de porte ou à quelque chose où il peut se reposer tranquillement, et puis ben les microbes ils restent pas au bout de 4 heures, ils ont disparu, hein. Même les masques chirurgicaux, c'est-à-dire que si vous utilisez votre masque 1 heure par jour, que vous le maltraitez pas trop, que vous l'enlevez délicatement à chaque fois, vous pouvez le suspendre, et puis au bout de 4 heures votre masque il peut servir. Vous voyez, pour des gens qui sortent simplement de chez eux.
Oui, juste quand ils sortent de chez eux et qu'il n'y a pas trop de contact.
Pour faire les courses, les gens qui sortent de chez eux, qui vont faire des courses, qui s'en servent pendant 1 heure ou 2, eh ben, ils peuvent s'en servir s'ils suspendent délicatement. Quoi.
Une question sur les tests. On n'a pas tous bien compris la différence entre les tests. Qui doit se faire tester et est-ce qu'on peut se faire tester aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y a suffisamment de réactifs, de produits pour les réaliser?
Et là, normalement, bon, on ne sait pas trop encore mais les laboratoires avec lesquels on travaille, ils n'ont pas de problème de test. On teste tous les gens qui sont symptomatiques ou tous les gens qui ont été en contact avec des gens qui étaient symptomatiques. Donc, ça peut faire beaucoup de monde dans certains cas. Et là, l'exemple qu'on a avec le cluster à Clamart, là, dans le foyer de jeunes travailleurs, on a testé tout le foyer parce qu'il y avait une personne qui était positive et une autre qui était suspecte. Et sur les 30 qu'on a testés, on en a eu 7 qui étaient positives. Et ces 7 personnes-là, qui étaient des jeunes de 20 à 22 ans, ils étaient tous asymptomatiques. Aucune courbature, aucune fièvre, etc. Ils étaient en pleine forme. Et donc, il faut tester les gens symptomatiques et les gens qui ont côtoyé les symptomatiques. Ce qu'on appelle les gens contaminés.
Oui, mais on ne sait pas forcément si on a contacté des gens, si on a été en contact avec des gens symptomatiques, c'est là la difficulté.
La personne contact, si vous voulez, c'est justement pour ça que ce qu'on a proposé à la caisse d'assurance maladie, que le médecin généraliste note la personne qui avait été contaminée, de façon à ce qu'on puisse prendre contact avec les personnes que la personne contaminée a pu approcher ou aurait pu contaminer, c'est ce qu'on appelle les personnes contact. Et le service médical de l'assurance maladie prend contact avec les personnes que la personne que le contaminé a rencontrées et les met en rapport avec leur médecin traitant qui les teste à leur tour. Donc, si on applique ce système-là tranquillement, on va pouvoir contenir l'épidémie, qui forcément, il va y avoir de nouveaux cas qui vont apparaître avec le déconfinement. Mais si on fait ça, on va pouvoir contenir l'épidémie.
Mais alors, de quel test on parle ?
Là, on parle des tests dans les narines, là, ou dans la gorge, c'est des tests PCR. Ouais. Parce que les tests sanguins sont capables de vous dire si vous avez été contaminé, si vous avez des anticorps et si votre infection est récente ou ancienne. Ouais. Mais pour le moment, ces tests sanguins-là, on attend encore la validation des tests.
C'est-à-dire la validation pour savoir s'ils sont fiables.
S'ils sont fiables, voilà.
Oui, mais est-ce que ça aurait pas un intérêt de savoir si on a été contaminé ou non?
Ça peut avoir un intérêt, mais pour les gens qui n'ont présenté aucun symptôme, là j'ai le mauvais exemple avec les 7 personnes qui sont totalement asymptomatiques, absolument. Les personnes jeunes. Mais normalement, tester tout le monde, ça a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il faut se limiter aux personnes contaminées et les personnes contacts, parce que sinon là, il va falloir tester la France entière. Et puis attendez, vous testez la France entière, mais en plus, rien ne vous dit que dans 7 jours, vous n'allez pas développer la maladie. Donc on va pas faire un test tous les 7 jours à tous les Français.
Ouais. Mais ça permettrait peut-être de savoir combien de personnes, enfin s'il y a des gens qui ont déjà eu la maladie, parce que je vous donne un exemple. Moi j'ai une amie dans sa famille, tout le monde a eu des symptômes très différents et très variés. Une qui a perdu l'odorat pendant 2 jours et puis après plus rien.
La peine de la tester, on sait qu'elle l'a fait.
Oui, une fatigue pendant 48 heures, ça c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à savoir si on a été contaminé d'abord, est-ce qu'on peut le rattraper? Ça, on n'en sait toujours rien. A priori, non, mais on n'a pas la certitude.
Enfin, au moins jusqu'à l'année prochaine.
Vous pensez, quel est votre sentiment aujourd'hui? On voit la courbe qui est en cloche, comme on dit, c'est-à-dire elle est montée très haut et elle redescend. Ça indique que a priori le virus circule moins. Est-ce que c'est
ça veut dire que pour le moment le confinement a porté ses fruits. On saura si la cloche repart dans l'autre sens. Ça veut dire que le virus est toujours circulant. Là, on peut rien dire pour dire si le virus et la virulence est moins élevée ou on ne sait pas quelle est la réalité. C'est-à-dire, est-ce que la diminution est due au confinement ou est-ce que la diminution est due à une perte de virulence du virus? Ça, on va le savoir dans les 15 jours. Hein.
Et on n'a aucune idée aujourd'hui de savoir si le virus circule encore ou pas.
Le virus il circule encore, la preuve, il y a des clusters un peu partout, là il y en a 3 ou 4, bon tout ça c'est pas très important, mais le virus circule bien évidemment, il faut rester extrêmement prudent, c'est pour ça que les masques c'est pas du luxe, il faut vraiment les mettre. Et puis, si tout le monde les met, tout le monde se lave les mains, mon Dieu, on devrait réussir à en venir à bout de ce virus.
On en sait allez-y.
Non, mais il faut surtout pas relâcher la pression. Hein. Ce matin, j'espère que tout le monde avait des masques dans les transports, mais dès qu'on va dans les commerces, il faut des masques. Et puis les commerces, il faut qu'ils aient du gel hydroalcoolique à l'entrée, qu'on s'abstienne de toucher les choses, etc. Si on n'a pas passé les mains au gel. Et de toute façon, une fois que vous avez touché quelque chose, il faut se relaver les mains. Donc c'est ça l'affaire.
Oui. Un mot sur le foyer, en bon français plutôt que cluster, sur le foyer qui a été détecté à Clamart. Il y a eu du retard à l'allumage, de ce que vous nous dites sur le.
Oui, Oui, c'est-à-dire que bon, moi je l'ai signalé le vendredi soir à l'ARS, il était tard, donc je suis allé voir les jeunes contaminés pour leur annoncer qu'ils étaient positifs et leur dire de ne pas sortir. Le lendemain, il y a eu une équipe du centre Covid de Clamart qui s'est déplacée, un médecin, une infirmière pour identifier les cas contacts, et puis on a averti la mairie pour qu'il y ait un portage de repas, ce qui va être mis en place. Mais si on avait dû appliquer strictement la procédure qui est prévue, on aurait dû extraire les 7 personnes contaminées et les mettre dans un centre Covid spécial et dans un ou dans un hôtel. Donc si vous voulez, bon, il y a eu un petit peu de perte de temps, mais le monde a été testé. On retestera sans doute les gens la semaine prochaine, ceux qui sont négatifs, et puis pour voir si on maintient le confinement ou pas.
Bon, donc il faut être prudent. C'est le message que vous faites passer aujourd'hui. Porter des masques. Est-ce qu'il y a des masques qui sont mieux que d'autres? L'efficacité des masques en tissu lavable est assurée?
Ben, c'est pas mal. Si vous voulez, c'est que déjà, si vous voulez, si vous avez un masque en tissu et puis que la personne en face de vous a un masque en tissu, le risque de contamination il baisse considérablement. Donc si vous êtes tout seul à avoir un masque, vous pouvez avoir un risque de contamination de 60% pour la personne en face, vous 30%, et si toutes les deux portent des masques, le risque il passe à 1,5%. Donc c'est l'importance de porter
des masques. Mais il faut bien le porter. Encore une fois, moi j'ai vu des choses ce week-end.
Il faut bien le porter, en dessous du nez, ça sert à rien.
Et puis bien serré aussi. Là, j'ai vu moi des masques en tissu qui étaient baillants sur les côtés, sur le dessus, etc. Donc c'est vraiment d'insister là-dessus, de bien les que ça couvre bien et que ce soit effectivement bien pas hermétique, c'est pas le mot, mais en tout cas bien fermé quoi.
Ouais,
ok,
ouais,
bah écoutez, merci.
Exactement.
Merci beaucoup, docteur Hamon, d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve, nous, dans un instant, pour commenter l'actualité, parler de ce premier jour de déconfinement, je mets des guillemets, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change finalement, qu'on soit en rouge ou en vert. À tout de suite.